Avec vous Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Édouard Philippe présente depuis ce matin dans le Nord l'agenda rural du gouvernement. Une batterie de mesures censées permettre de répondre à la crise des gilets jaunes qui a fait apparaître le besoin de socialisation dans les petites communes.
1175 bacheliers sont encore sans affectation à l'issue de la procédure Parcoursup 2019.
Oui, annonce faite ce matin par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal, un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier.
Le parquet doit prononcer aujourd'hui ses réquisitions au procès de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise et 5 autres de ses proches sont jugés pour les incidents ayant émaillé la perquisition l'an dernier au siège de leur parti.
À l'étranger, nous irons tout d'abord en Algérie où l'armée a annoncé avoir donné des instructions dans le but d'empêcher les déplacements vers la capitale de tous ceux qui souhaiteraient participer aux manifestations de ce vendredi. Au Yémen, la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a annoncé avoir lancé hier une opération militaire contre les rebelles Houthi soutenue par l'Iran. Il s'agit de la première attaque depuis les frappes dirigées contre les installations pétrolières saoudiennes. Enfin, des millions de personnes à travers le monde entier sont appelées à faire grève pour le climat aujourd'hui. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Véronique Martin, secrétaire confédérale CGT en charge des questions environnementales. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Alors que paraît l'autobiographie de l'homme qui a tout risqué pour dénoncer la surveillance globale, selon son éditeur, Edward Snowden, le monde a-t-il changé depuis ces révélations? C'est la question que nous poserons à notre invité, le cofondateur de la Quadrature du Net, Félix Tréguet, lui-même auteur de L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet.
Merci et à tout à l'heure. Après la verticalité assumée du macronisme triomphant, place à la décentralisation, qu'il paraît loin à présent ce début de quinquennat houleux marqué par des relations tendues entre l'exécutif et les élus locaux. Après la crise des gilets jaunes, laquelle aura notamment porté une attention particulière sur ces territoires parfois frappés par un sentiment d'abandon, le gouvernement semble s'être résolu à envoyer des signaux positifs aux collectivités territoriales et plus encore sans doute aux maires des petites communes. Alors, derrière cette volonté affirmée du gouvernement de renforcer cette concertation difficile à 6 mois des échéances municipales, de ne pas voir se dessiner là en filigrane la tactique de l'exécutif de creuser un peu plus encore le sillon déjà entamé par Emmanuel Macron lors du grand débat national. Toujours est-il que ce matin, Édouard Philippe, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, s'est donc rendu dans le Nord à l'occasion du congrès de l'Association des maires ruraux de France pour y présenter un agenda rural qui comprend 173 mesures au total pour soutenir les petits commerces et la jeunesse. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors, sans rentrer dans le détail de toutes ces mesures, que faut-il retenir, Anne, de l'intervention ce matin du Premier ministre?
Eh bien, Édouard Philippe a tout d'abord rappelé quelques réalités. Depuis 20 ans, l'exode rural s'est inversé. Aujourd'hui, la population des campagnes croît plus vite que celle des villes, précise-t-il. Et ce sont en effet près de 23 millions de Français qui vivent en zone rurale et ces territoires gagnent environ 100 000 habitants par an. Pour répondre à leurs besoins, donc, le Premier ministre définit 4 objectifs. La transition écologique, tout d'abord, avec un axe contre l'artificialisation des sols, sujet compliqué pour le Premier ministre qui annonce une concertation sur le foncier agricole, sur l'attractivité des territoires ruraux. On y voit en revanche un petit peu plus clair. Pour encourager la création de commerces dans les communes de moins de 3500 habitants, il y aura des exonérations fiscales compensées à un tiers par l'État. Au sujet des lieux de convivialité, le gouvernement va remettre en circulation des licences 4 qui permettent de vendre de l'alcool dans les débits de boissons, des licences dites de revitalisation qui seront non transférables d'une commune à l'autre pour ne pas voir les bars quitter les villages vers les zones touristiques, comme c'est actuellement le cas. Il est aussi question de services publics, évidemment, avec le développement de guichets uniques via le réseau des Maisons France Services. 600 médecins seront également recrutés pour résorber les déserts médicaux. En ce qui concerne les nouveaux moyens de communication, les opérateurs télécoms auront des obligations pour couvrir en technologie 5G les campagnes. L'enjeu est fort pour les jeunes, notamment, à qui Édouard Philippe a promis 33 campus connectés tout à l'heure. Enfin, le Premier ministre a un mot pour la sécurité et il souhaite décliner la police de sécurité du quotidien, dispositif de proximité mis en œuvre dans les quartiers depuis plus d'un an.
Merci Anne Fauquemberg. En cette rentrée 2019, combien d'étudiants restent sur le carreau? Voilà la question à laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, était appelée à répondre ce matin à l'occasion du premier bilan de Parcoursup 2019, la plateforme d'affectation post-bac, et la réponse est 1175 bacheliers qui sont donc encore sans affectation. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors ce chiffre est évidemment à comparer avec celui de la rentrée 2018, ils étaient 955 bacheliers sans proposition, c'est donc Hakim a priori pire cette année.
Oui, 1175 candidats de plus par rapport à l'année dernière, ils étaient 955. Ces candidats, ils viennent principalement de bac pro et de bac technologique, et ce, malgré des places supplémentaires en BTS et en IUT. C'est pourquoi la ministre Frédérique Vidal réfléchit à la mise en place d'une licence sur 3 ans, une licence post-bac, pour ces bac pro et ces bac technologiques. Frédérique Vidal.
Nous allons regarder dans quelle branche professionnelle il y a des besoins. Par exemple, dans le secteur de l'aérospatial, on sait qu'on va avoir besoin de plus de 20 000 techniciens dans les années à venir, notamment grâce au succès que connaît Airbus. Et donc c'est aussi important, évidemment, que nous puissions former des gens de façon à ce que ces métiers puissent continuer à augmenter.
Autre annonce ce matin, le nombre de boursiers, plus 5%. Il faut dire que la hausse démographique est très importante à l'université, plus 400 000 étudiants de plus depuis 10 ans. Enfin, sur les adultes en reprise de formation, ils étaient très nombreux cette année, 110 000. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche prévoit pour eux la mise en place d'une nouvelle plateforme en collaboration avec le ministère du Travail baptisée Parcours Plus.
Merci Hakim Kasmi ainsi qu'à Martin Trembec pour les moyens techniques. Au lendemain d'une première et longue journée d'audience, le parquet, le ministère public a requis ce matin 3 mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende contre Jean-Luc Mélenchon, poursuivi pour actes d'intimidation, rébellion et provocation lors de la perquisition au siège de son parti l'an dernier. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal correctionnel de Bobigny. L'audience a repris ce matin avec notamment les plaidoiries des avocats des parties civiles dans un climat a priori apaisé, Antoine.
Oui, l'atmosphère est clairement retombée. Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon étaient hier plusieurs centaines devant le palais de justice de Bobigny. Ils ne sont plus ce matin que quelques dizaines. Le balcon de la salle d'audience où se trouvent les journalistes est à moitié vide et la fatigue se lit sur les visages car la nuit a été courte. La matinée débute donc par les plaidoiries des avocats des parties civiles. L'avocat du vice-procureur ouvre le bal. Il évoque un magistrat bousculé, humilié parce qu' exerçait sa mission. Cela fait plus de 20 ans que mon client est dans la magistrature, il n'a jamais subi cela. On l'a fait passer pour ce qu'il n'est pas, un serviteur, un laquais, un pantin aux ordres du pouvoir politique. Arrive le tour de Maître Dupond-Moretti. J'ai l'honneur de défendre aujourd'hui 3 hommes qui n'appartiennent pas à une bande mais à la police nationale. Il s'adresse aussi prévenu. Les explications que vous défendez sont pathétiques. Et à Jean-Luc Mélenchon, il lance « Vous savez que vous encourez peu de choses, mais il s'agit pour vous de prévenir la chute de votre électorat, la catastrophe, et donc de faire de votre procès un procès politique. » L'avocat ironise sur le leader de la France insoumise qui se prend, selon ses termes, pour le Lula français. Et il ajoute « Vous ne l'aurez personne avec votre histoire de procès politique. » Maître Dupond-Moretti qui fait une courte déclaration devant les journalistes après sa plaidoirie pour la première fois depuis l'ouverture du procès.
Il n'imaginait pas, M. Mélenchon et ses comparses, qu'en rameutant la presse et qu'en filmant cette perquisition, ils allaient forger la plus belle des preuves de leur culpabilité. Il y a tout dans le film. Il y a un procureur bousculé, il y a un policier injurié, 2 policiers injuriés, tous les policiers injuriés. On a la rébellion, on a tout. Mais ils ne veulent pas reconnaître, parce qu'ils sont ici pour sauver leur parti.
Pour vous, Jean-Luc Mélenchon est le meneur de cette rébellion ?
Ah oui, c'est clair. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a 2 phases. Il y a une phase où la perquisition se passe plutôt pas mal, et quand il arrive, c'est une espèce de déchaînement, de hurlement. Il rameute des gens.
Et place ensuite donc au parquet qui a requis donc 3 mois de prison avec sursis contre Jean-Luc Mélenchon à l'instant.
Merci Antoine Maret en direct du tribunal correctionnel de Bobigny ainsi qu'à Nicolas Mathias pour les moyens techniques. C'est la 2e compagnie aérienne française en moins de 3 semaines à se déclarer en cessation de paiement et à rechercher un repreneur. XL Airways a demandé hier son placement en redressement judiciaire. En grande difficulté financière, la compagnie qui dessert principalement les Caraïbes, la Réunion et les États-Unis a déjà prévenu qu'elle était désormais dans l'obligation d'arrêter ses ventes, ajoutant que certains vols étaient susceptibles d'être annulés dès lundi. À l'instant Star d'Aigle Azur, XL Airways pâtit aujourd'hui non seulement de la hausse des prix du carburant, mais surtout de la concurrence féroce des compagnies à bas coût. Voilà bientôt 7 mois que chaque vendredi, l'Algérie est le théâtre de manifestations contre le pouvoir, des manifestations qui ont abouti à la démission du président Bouteflika en avril dernier, mais qui se sont poursuivies depuis sans faiblir, avec parmi ces nouveaux mots d'ordre le départ de l'ensemble du système. Or, face à la contestation, voilà que le pouvoir a choisi dimanche dernier le passage en force en annonçant une date pour la tenue du prochain scrutin présidentiel le 12 décembre, malgré le rejet de la rue. Et puis, nouveau tour de vis supplémentaire des autorités dans leur face-à-face avec les manifestants. l'information, mercredi, l'armée a indiqué qu'elle empêcherait désormais les manifestants en provenance d'autres régions du pays de se joindre au cortège du vendredi dans la capitale Alger. Ou quand, face à la détermination des Algériens, le pouvoir choisit désormais de répondre par la répression. Pas de quoi a priori entamer pour autant la détermination du mouvement populaire. Les précisions à Alger de la correspondante de RFI pour France Culture, Laïla Berato.
Depuis hier après-midi, les entrées d'Alger sont le théâtre d'embouteillages monstres. S'il était devenu habituel que les forces de l'ordre dressent des barrages les veilles de manifestations, elles ont désormais le feu vert pour confisquer les véhicules et mettre des amendes aux propriétaires. Parallèlement, les forces de l'ordre ont arrêté une quarantaine de personnes la semaine dernière qui ont été maintenues en détention. 22 d'entre elles ont été mises sous mandat de dépôt et les autres attendent toujours de voir un juge. C'est la première fois depuis le début du mouvement qu'un tel nombre de manifestants est arrêté puis maintenu en détention en une seule journée. Par ailleurs, si les arrestations lors de la manifestation des étudiants étaient habituelles, pour la première fois cette semaine, 2 étudiants ont été placés en détention provisoire et une mère de famille placée sous contrôle judiciaire. La presse, les organisations de la société civile craignent d'autres arrestations en ce vendredi.
Il était le symbole de ces régimes autoritaires arabes autrefois choyés par les Occidentaux, mais plus encore, il restera dans les livres d'histoire comme le premier autocrate emporté par une vague révolutionnaire à l'écho planétaire. Hier, l'ancien président tunisien Ben Ali est décédé à l'âge de 83 ans à Jeddah en Arabie Saoudite où il vivait en exil. Car si sa chute en 2011, après plus de 2 décennies d'un pouvoir répressif, avait effectivement marqué le point de départ du printemps arabe, le despote avait malgré tout réussi à échapper à la justice de son pays. En ce sens, il incarnait aussi l'impunité et nul doute que ce point noir dans le processus de transition de la Tunisie n'est pas tout à fait étranger au résultat du premier tour de l'élection présidentielle organisée le week-end dernier et qui a vu émerger en tête 2 candidats anti-système ou quand l'échec de la classe politique traditionnelle, du pouvoir comme de l'opposition d'ailleurs, fait également partie de l'héritage de l'autoritarisme de feu Ben Ali. En Israël, l'impasse politique se confirme avec la publication des résultats quasi définitifs des législatives. Pour l'heure, le parti bleu-blanc de Benny Gantz obtiendrait 33 sièges contre 31 pour le Likoud de Benjamin Netanyahou, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à la pugnacité du Premier ministre sortant, lequel n'entend pas facilement céder le pouvoir. Hier, bien qu'ayant perdu arithmétiquement son duel avec Benny Gantz, Benjamin Netanyahou a proposé de former sous sa conduite un gouvernement d'union nationale, offre aussitôt rejetée par la liste de centre-droit. En revanche, Gantz a lui proposé de former et de diriger lui-même un gouvernement de coalition. Si le nom des responsables des attaques qui ont gravement endommagé des installations pétrolières saoudiennes samedi dernier fait toujours débat, la confusion entretenue autour du rôle présumé de l'Iran semble pour l'heure tourner plutôt à l'avantage de Téhéran. Quand les Européens se contentent de condamnations minimales, les Américains, eux, assurent désormais vouloir parvenir à la paix et privilégier une solution pacifique. De leur côté, les Émirats arabes unis ont fait profil bas en optant pour un ton relativement modéré. Et au final, c'est donc l'Arabie saoudite, affaiblie en son sein, qui apparaît aujourd'hui isolée quand Téhéran sort de cette séquence, au contraire renforcée au point de menacer même hier les États-Unis d'une guerre total en cas de représailles militaires. Et c'est donc dans ce contexte que l'on a appris hier que la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite avait lancé une opération militaire au Yémen contre les rebelles Houthis, c'est-à-dire ceux-là même qui depuis le départ revendiquent les attaques de la semaine dernière contre les installations pétrolières saoudiennes, rebelles soutenues, je vous le rappelle, par l'Iran. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Alors même si la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats interviennent depuis 2015 pour soutenir le gouvernement yéménite, on a du mal, Claude, à ne pas entrevoir derrière cette nouvelle offensive une occasion opportune de s'en prendre indirectement à l'Iran.
Oui, l'Iran, effectivement, l'Iran toujours au cœur de cette guerre par procuration qui se joue sur le sol yéménite. L'Arabie Saoudite, hein, vous venez de le dire, n'a jamais été aussi isolée que depuis le début de cette guerre. Et cet été, le désengagement partiel des Émirats Arabes Unis du sol yéménite a envoyé un premier signal de lassitude de la part quand même d'un des principaux piliers de cette coalition. L'attaque contre les intérêts pétroliers saoudiens est venue exposer encore davantage la vulnérabilité du royaume des Saouds et les efforts diplomatiques pour tenter d'éviter un embrasement ne font évidemment pas les affaires de Riyad qui espère une frappe américaine sur l'Iran. Un Iran que Riyad essaie donc peut-être de pousser à la faute avec cette attaque contre les Houthis donc que Téhéran soutient. Jamais la situation n'a été aussi dramatique sur le terrain et pourtant, selon Farah al-Muslimin, directeur du Sana Center, un centre de recherche stratégique yéménite, c'est peut-être enfin le moment de mobiliser la diplomatie. Pour lui, la France notamment, qui a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, doit se mobiliser.
Jusqu'ici, on n'a pas noté un grand intérêt pour la paix au Yémen, peut-être parce qu'il n'y a pas de réfugiés qui fuient. Ce n'est donc pas une question intérieure. Donc un problème et des effets immédiats sur vous, on n'y pense pas. Mais avec l'attaque sur les infrastructures pétrolières le week-end dernier, pour la première fois, vous avez senti les effets. Les rivières de sang ont pu couler, ça on s'y fait. Venant du Yémen, on a l'habitude. Mais là, il suffit d'une goutte de pétrole pour que tout s'emballe.
Et c'est peut-être là, espère-t-il, le facteur décisif, Thomas, qui obligerait la communauté internationale enfin à réagir.
Merci Claude Guibal. Malgré l'image verte qu'elle cultive à l'étranger, l'Allemagne débat depuis des mois du plan climat attendu aujourd'hui, des mesures environnementales censées lui permettre d'atteindre envers et contre tous ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2020, a priori en vain vu l'ampleur de la tâche, mais à l'instar de son fameux « nous y arriverons » qui en 2015 s'appliquait à la crise migratoire, la chancelière veut faire ici la démonstration de sa bonne volonté s'agissant désormais du climat. Quoi qu'il en soit, le calendrier de la présentation de ce plan à Berlin ne tient pas du hasard, puisque c'est aujourd'hui la troisième grève mondiale pour le climat. Pas moins de 4600 événements sont prévus à travers toute la planète. Voilà un an maintenant que la campagne Fridays for Future, initiée par la Suédoise Greta Thunberg, entend mobiliser chaque vendredi des jeunes du monde entier pour participer à des manifestations en faveur de l'action climatique et pourquoi pas aussi créer des vocations. C'est ainsi par exemple qu'en Pologne, un des pays les plus pollués d'Europe, organisateur de la dernière COP24, une jeune fille, Inga Zasowska, a décidé d'agir à 13 ans. Elle a passé une partie de ses vacances d'été devant le Parlement polonais pour exiger enfin des actions du gouvernement en faveur du climat. Notre correspondant Thomas Giraudot l'a rencontré.
Inga Zasowska a passé ses vendredis du mois de juillet assise durant des heures sous la chaleur devant le Parlement polonais. Et pourtant, c'est une jeune fille très réservée qui nous accueille chez elle en banlieue de Varsovie. Sa pancarte portait fièrement cet été la grève des vacances pour le climat à côté d'elle.
Le gouvernement polonais ne fait rien. On consomme toujours autant de charbon et il n'y a pas de programme pour développer les énergies renouvelables. À l'école, nous n'apprenons presque rien sur le développement durable, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'agir.
Grande admiratrice de la Suédoise Greta Thunberg, à l'origine des grèves de l'école pour le climat, à 13 ans, Inga Zasowska a elle aussi créé un élan durant l'été.
Il y a eu d'autres grèves après moi durant les vacances, organisées par des jeunes dans d'autres villes de Pologne. Quant à mon action devant le Parlement, il y avait des gens qui m'ignoraient, mais aussi d'autres qui, dès le premier jour, se sont joints à moi pour faire grève aussi. Seulement quelques politiciens sont venus, ceux de l'opposition, mais personne du parti au pouvoir.
Son engagement pour le climat, Inga le doit en grande partie à sa mère, Patricia, militante elle aussi depuis peu, depuis l'apparition sur les écrans de Greta Thunberg l'an dernier.
Ici, à la maison, j'ai commencé à parler d'un livre sur le sujet et Inga a fait comme une sorte de dépression climatique, si je puis dire. Elle était très affectée par ce que nous faisions subir à la Terre. Maintenant, Inga lit beaucoup, toute seule, sur le climat. Donc ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de la grève devant le Parlement. Tout est venu d'elle. Je ne l'ai pas poussée à le faire.
Comme Greta Thunberg, Inga Zasowska est suspectée par des internautes d'être instrumentalisée. Elle se rendra aujourd'hui avec ses amis à la manifestation des jeunes pour le climat à Varsovie.
Alors aujourd'hui, les jeunes ne seront pas les seuls en réalité à battre le pavé. Partout et à tout âge, des lycéens en retraité, mais aussi des grands syndicats aux employés, des citoyens sont appelés donc à se joindre à tous ces rassemblements pour exiger des États et des entreprises qu'ils passent à la vitesse supérieure. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Véronique Martin, secrétaire confédérale CGT en charge des questions environnementales. Bonjour madame.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Marie Viennot. Bonjour Marie.
Bonjour.
Première question madame Martin, le poste que vous occupez est nouveau, il a été créé je crois au printemps dernier. Pourquoi votre syndicat a-t-il senti le besoin donc de s'intéresser plus particulièrement à cette problématique du climat? On a déjà une petite idée de la réponse, mais surtout pourquoi maintenant et pourquoi pas avant?
Alors, la CGT s'est toujours préoccupée des sujets environnementaux sans forcément peut-être les mettre autant en avant que ils sont mis dans la dernière période. Donc c'est vrai que suite au dernier congrès confédéral qui s'est tenu au mois de mai, où les sujets environnementaux ont pris une bonne part dans les débats du congrès, nous avons effectivement décidé d'avoir une responsable, en l'occurrence moi, en charge de travailler sur les sujets environnementaux. Bon, je suis pas toute seule puisqu'on a d'autres camarades aussi qui travaillent sur ces sujets-là.
Christian de Marie-Vienneau.
Alors, 76 organisations syndicales internationales se joignent à cette mobilisation sur le climat. Il y a donc comme une convergence qui se fait. Souvent, on parle de la convergence. Est-ce que les jeunes vont rejoindre les travailleurs? Là, on est dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme acte politique du point de vue de la CGT qui permettrait de changer d'échelle dans les actions?
Mais nous, ce qu'on attend avant tout, c'est qu'effectivement, on ait des actes forts, des décisions fortes du gouvernement, au-delà des annonces que peut faire le président quand il se trouve à l'international. Et donc, nous, ce qu'on souhaite pour le pays, c'est que on puisse avoir notamment des dispositions fortes en matière de report modal, en termes de transport, en matière de maintien de l'emploi en proximité, qu'on arrête les délocalisations pour aller produire moins cher à l'étranger et à ce moment-là on se retrouve avec transport de marchandises qui explose sous divers modes, des mesures fortes donc comme je disais en termes de report modal et un développement notamment du fret ferroviaire en France, des mesures aussi en termes de maintien de services publics sur l'ensemble du territoire et non pas ce qui se passe aujourd'hui avec la multiplication de fermetures d'hôpitaux, de fermetures d'écoles, de bureaux de poste, de services des impôts avec les collègues des services financiers des impôts qui se sont mobilisés, notamment le 16 septembre, contre la fermeture des trésoreries.
Parce que ça va entraîner plus de trajets.
Parce que derrière, automatiquement, on désertifie les territoires et ça oblige les citoyens à faire beaucoup plus de kilomètres pour pouvoir se soigner, pour envoyer un colis, pour payer ou aider à déclarer les impôts. Enfin, voilà.
Alors, faire coïncider les objectifs de défense de l'environnement, notamment du climat, et de défense des emplois, des salaires, du pouvoir d'achat, cela peut être parfois antagoniste. Je vous prends un exemple, si on enlève les exonérations sur l'essence des transporteurs routiers, c'est potentiellement bien pour inciter à la réduction des gaz à effet de serre, mais cela peut entraîner aussi des destructions d'emplois. Je prends cet exemple parce que vous venez de la Fédération des cheminots. De quel côté vous penchez dans un cas comme celui-ci, quand on met face à la défense de l'environnement, la défense de l'emploi?
Alors, le cœur de l'action de la CGT, c'est avant tout la défense de l'emploi et des conditions de travail des salariés. Effectivement, moi, si je prends par exemple un sujet emblématique dans la dernière période, qui est la suppression du dernier train des primeurs entre Perpignan et Rungis. On pourrait se dire, c'est bien, ça va faire de l'emploi pour les chauffeurs routiers, puisque de toute façon, au lieu d'être transportés par le train, ces marchandises vont être transportées par la route avec toutes les nuisances que cela peut apporter, puisque ça va être des milliers de camions qui vont être sur les routes. Sauf que on a travaillé avec les collègues de la Fédération des Transports qui sont sur notamment sur le sujet du transport routier. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est que eux, ils sont pour le maintien du train Perpignan-Rungis, parce que sa suppression va dégrader les conditions de travail des chauffeurs routiers, puisque aujourd'hui en France,
sur cet exemple-là, voilà, ça se rejoint. Alors,
ça se rejoint.
Sur d'autres, c'est
plus compliqué, mais dans le même temps, par exemple, si je prends aujourd'hui la volonté du patronat de fermer l'entreprise Arjo-Wiggins en Seine-et-Marne, une entreprise qui produit des billets pour l'étranger, ils veulent fermer parce que la production soi-disant coûte trop cher en France, et d'un point de vue écologique ils fabriquent les billets à partir du coton qui est importé. Nous on a une proposition pour maintenir en exploitation cette usine, qui est de fabriquer fabriquer des billets avec du chanvre qui serait produit localement. Donc voilà.
Alors, une dernière petite question, on a peu de temps, mais cette mobilisation, elle a commencé par les lycéens qui disaient « on va faire grève le vendredi ». Est-ce qu'on pourrait avoir aussi des préavis de grève déposés par des syndicats sur ce motif-là, climatique ?
Alors, on a aujourd'hui des syndicats qui ont déposé des préavis de grève et qui appellent à faire grève aujourd'hui, en faisant le lien entre les problématiques dans l'entreprise et les sujets climatiques. Nous, au niveau de la Confédération, aujourd'hui, on appelle partout où c'est possible à faire grève et à participer aux différentes manifestations. Voilà, aujourd'hui un appel à. Alors, au niveau confédéral, on ne peut pas déposer un préavis, mais par exemple, si je prends puisque c'est une journée mondiale, par exemple en Angleterre, il y a un syndicat, le TUC, qui appelle à 30 minutes de débrayage partout en Angleterre. Donc voilà, on peut faire des choses.
Merci Véronique Martin, secrétaire confédérale CGT, je le rappelle, en charge des questions environnementales, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Marie Viennot. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Ensoleillé sur l'ensemble du territoire, même si quelques passages nuageux feront de la résistance au sud de l'Aquitaine et au reste de l'Occitanie. Quant aux températures, elles afficheront entre 19 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.